Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Éric Boisset. Aujourd'hui, je reçois Florence Quentin pour nous parler de la déesse égyptienne Isis. Florence Quentin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue, journaliste, écrivain, vous collaborez régulièrement au Monde des Religions, vous avez publié plusieurs ouvrages et je vous ai invité pour votre dernier ouvrage qui sort ces jours-ci, Isis l'Éternelle, biographie d'un mythe féminin chez Albin Michel. Alors c'est un ouvrage tout à fait passionnant sur ce personnage extraordinaire d'Isis qui a 5000 ans d'âge, et vous montrez dans cet ouvrage toutes les métamorphoses de ce personnage à travers l'histoire, à travers diverses cultures, civilisations. Mais avant qu'on fasse ce parcours un petit peu historique dans notre imaginaire, j'aurais aimé que vous nous racontiez déjà, qu'on prenne un peu le temps de voir qui était Isis, à quel moment elle apparaît dans l'histoire, dans quel contexte, et quelle est finalement la vie de ce personnage mythologique de l'Égypte.
Alors Isis apparaît très tôt dans l'histoire égyptienne, au 3e millénaire avant notre ère. Elle apparaît dans les textes des pyramides. Très tôt, ce mythe, ce grand mythe thème de mort et de renaissance, apparaît dans les textes, les premiers textes inscrits dans les pyramides. Et on voit émerger ce mythe autour de Isis et d'Osiris que les Égyptiens avaient élaboré, on peut dire ça de cette manière, pour expliquer les cycles de la nature, puisqu'on sait que l'Égypte a été vivifiée par ce grand fleuve roi qu'est le Nil. Et ils ont expliqué cette alternance de crues régénératrices, de vaches maigres et de vaches grasses pour l'Égypte, par ce mythe de mort et de renaissance. Donc très tôt dans la religion égyptienne, on voit apparaître, dans les premières cosmogonies égyptiennes, le couple fondateur de la civilisation qui est Isis et Osiris. Donc on voit dans certaines cosmogonies, notamment la cosmogonie héliopolitaine, la cosmogonie qui est reliée au dieu soleil, on voit un premier dieu créateur qui est Atum, qui émerge au premier jour de l'océan primordial. Cet océan plonge dans les ténèbres qui nous évoque par exemple la Genèse, hein, qu'on connaît bien, et d'autres mythologies. Cet océan primordial, plongé dans les ténèbres, de cet océan primordial jaillit au premier jour une sorte de formidable Big Bang qui est ce démiurge solaire qui est Atum et qui va naître sur l'île de l'embrasement. C'est une île solaire, une île très, très lumineuse, un Big Bang formidable, une énergie qui va sortir de ce Noun, cet océan primordial. Et de ce premier démiurge solaire vont naître une série de couples, un premier couple, Chou et Tefnout, l'humidité et l'air, qui vont générer un premier couple sexué, le ciel, qui est une femme dans la cosmogonie égyptienne, et non pas un homme, contrairement aux références qui sont les nôtres, et la terre, qui est un homme, qui est Geb. De ce premier couple, on va dire vraiment sexué, vont naître cinq enfants dans le corps étoilé de la déesse Nout, qui est figurée sous la forme d'une voûte solaire, une voûte céleste au grand corps étoilé. De ce ventre étoilé vont naître 5 enfants, dont Isis et Osiris, qui sont donc frères
et sœurs
et amants et maîtresses.
Alors ça, il faut nous raconter leur histoire.
Voilà, ils s'aiment furieusement, nous dit Plutarque, qui est un auteur gréco-romain qui a raconté sa version du mythe d'Isis. Ils s'aimèrent furieusement dès le ventre de leur mère. Donc on voit que déjà, dans ce ventre se croisent non seulement Isis et Osiris, mais un autre couple de cette gémellité un peu particulière qui est Nephthys et Seth, qui vont être les protagonistes de ce véritable drame shakespearien. Voilà. On sent que le bruit et la fureur arrivent.
Alors racontez-nous les tenants, les aboutissants de ce drame de l'histoire d'Isis et d'Osiris.
Alors le premier-né de ce grand ventre étoilé est Osiris, C'est un être remarquable, l'être parfait. Il mesure 4,50 m. Ses membres sont en lapis lazuli. Ça nous fait rêver, c'est très beau. Le lapis lazuli, c'est la pierre emblématique de l'Égypte. Et il va régner sur la terre d'Égypte. Il va apporter la civilisation. Il va apporter la loi aux Égyptiens. Il va sortir les hommes de leur animalité, de leur bestialité. Et avec Isis, ils vont aussi donner cette civilisation et cette fertilité à l'Égypte. Ils vont apprendre aux hommes à vivre entre eux, à vivre dans la société. Et le frère jumeau, qui est ce fameux Seth, qui est arrivé après, donc qui règne sur les étendues désertiques de l'Égypte, c'est un dieu qui est roux, donc qui est roux, qui est stérile et qui est honni et craint par les Égyptiens. Donc il va fomenter un complot contre son frère parce qu'il est très jaloux. Il veut le destituer, il veut monter à sa place sur le trône d'Égypte et il va fomenter un horrible complot. Il va réunir lors d'un banquet un ensemble de personnes, des conjurés en réalité, et il va mettre au centre de cette pièce, de ce grand banquet, un magnifique sarcophage. Chacun va s'y étendre comme une sorte de jeu. Et Osiris, qui est un peu naïf, on va le dire, malgré ses qualités de divine, va s'étendre parce que ce sarcophage mesure justement 4,50 m, il est remarquable. Il va s'y étendre et Seth, avec ses conjurés, vont l'enfermer. Ils vont plomber ce sarcophage. On va voir que le plomb n'est pas anodin puisque c'est un élément de l'alchimie et qui sera repris dans les spéculations des théosophes au XVIIe siècle. Cet élément que nous livre Plutarque n'est pas anodin. Et ce sarcophage est jeté dans le Nil. Il va dériver lentement jusqu'à la mer. Et nous dit Plutarque, il va arriver au rivage de Byblos, de Phénicie, où sur cette plage, il va se transformer en un magnifique tamari, un arbre extraordinaire avec un parfum d'une suavité rare. Et le roi de Byblos vient à passer et il voit cet arbre et il décide de le couper et d'en faire la colonne d'un de ses palais. Pendant ce temps-là, sur la terre d'Égypte, c'est la désolation, puisque ce dieu parfait, ce dieu extraordinaire, tant aimé par les Égyptiens, a disparu. Isis pleure, elle pleure tant et tant que ses larmes vont créer la première crue du Nil. Et on dira encore, jusqu'il n'y a pas très longtemps, que la nuit de l'inondation est appelée la nuit des larmes. Les Égyptiens, il y a encore 60 ans, avant que le barrage ne soit construit, disait encore, en ayant oublié certainement ce mythe d'Isis, que la nuit de l'inondation s'appelait la nuit des larmes.
Alors je fais une petite parenthèse, ça m'y fait penser. Vous savez que le moment dans les évangiles où Jésus pleure Lazare, j'ai entendu un exégète du texte grec dire que le mot grec utilisé, c'est le même qui est utilisé pour les inondations du Nil. Donc il pleura toutes les larmes de son corps, comme cette image que vous me donnez de la nuit des larmes. Donc voilà, des petites choses comme ça, des petites parenthèses entre les récits. Donc on comprend que c'est une tristesse absolue. Mm-hmm. Ils avaient déjà été amants, donc j'imagine. Mm-hmm. Donc c'est son frère, c'est son amant. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va devenir d'Osiris ensuite et comment Isis va essayer de le récupérer?
Alors vous voyez que c'est une très longue histoire.
Je pense qu'on pourrait passer. Oui, mais il faut continuer. Parce que tout le monde ne la connaît pas. Et je suis sûr que parmi nos auditeurs, on a encore le temps de la finir, cette histoire. Donc faisons-le parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et finalement, soit on ne la connaît pas, soit on l'a un peu oubliée, soit on connaît qu'un épisode. Donc continuons sur l'essentiel, c'est-à-dire le moment où...
Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, vous savez, les mythes, c'est ça, de nombreux épisodes. Donc Isis, comme on va le voir souvent dans son histoire... Et c'est important aussi parce que chaque élément du mythe est symboliquement passionnant et on pourrait le développer. Elle se transforme régulièrement en oiseau. Et là, elle va se transformer en milan, qui est un rapace qui a un vol très très beau, un vol anguleux qu'on peut remarquer dans le ciel égyptien. Et elle va parcourir la terre d'Égypte pour retrouver une première fois, parce qu'il y aura une deuxième quête, son époux décédé, enfin son époux enlevé. Et elle va finalement le retrouver à Byblos. Elle va, à la suite d'un certain nombre d'épisodes, pouvoir le ramener en Égypte et le cacher dans les marais de Chémis, dans le delta du Nil, qui sont son royaume, puisque c'est là, pour les Égyptiens, les marais sont le symbole du liquide amniotique. C'est le grand domaine du féminin. Et dans ce grand domaine du féminin, elle cachera toujours les hommes qu'elle aime, tout d'abord Osiris, et ensuite son fils Horus, pour le protéger des foudres de l'éternel Seth, c'est-à-dire ses forces antagonistes au bien. Et ce fameux Seth, une nuit pleine lune, découvre le sarcophage et se dit « Mais non, je n'ai pas exécuté finalement ce frère. Il s'empare de ce corps et il va découper le corps d'Osiris en 14 ou 42 morceaux selon les versions, 14, la moitié d'un cycle lunaire, et le disperser dans toute l'Égypte. Va commencer la deuxième quête
d'Isis, d'aller rassembler tous les morceaux de ce
corps. Rassembler les morceaux de ce corps.
Et est-ce qu'elle va y parvenir ?
Alors, elle va y parvenir avec son, alors avec sa sœur Nephthys. C'est important de le dire. On voit que les femmes, c'est l'union du féminin. C'est à la fois son double féminin, Nephthys, sa sœur. Et avec elle, grâce à elle, grâce à cette union du féminin, et non pas la rivalité du féminin, elles vont s'associer et retrouver, reconstituer le masculin, c'est-à-dire cet homme démembré, cet homme disloqué, et elles vont le reconstituer. Finalement, il sera la première momie, il deviendra le dieu des morts, qui règnera dans l'au-delà, et désormais, tous les Égyptiens, hommes ou femmes, pourront se prétendre à Osiris et accéder, grâce au sacrifice d'Osiris, à l'immortalité.
Alors, avant de poursuivre, je voudrais vous poser une question sur l'archétype. C'est-à-dire que là, on a parlé du mythe. Maintenant, je voudrais savoir ce que ce mythe signifie comme archétype. C'est-à-dire que, quelle est la fonction dans la psyché, de manière symbolique, d'Isis. Qu'est-ce que ça va signifier, ce mythe, qui va être si universel qu'on va ensuite le voir transmigrer, si je peux dire, de culture en culture jusqu'à nos jours?
Alors, il y a une chose que j'ai voulu restaurer quand j'ai écrit ce livre. Il m'a semblé quelque chose d'important, c'est qu'on parle toujours d'Osiris comme le dieu central de ce mythe. En réalité, à partir du moment où il est détruit par son frère Seth, il n'est plus qu'un héros passif. Il est couché, il ne peut plus rien faire. Et Isis, c'est la figure archétypique de l'initiatrice du féminin. C'est celle qui va remembrer cet homme, qui va lui redonner la vie, et lui redonner non seulement sa virilité, on le voit dans le mythe, puisqu'elle lui façonne un sexe qui lui fait défaut, qui a été avalé par le poisson du Nil. Elle lui redonne non seulement sa virilité, mais elle lui redonne son masculin symboliquement. Elle est aussi donc la créatrice, parce qu'elle va avoir un enfant sans son intervention, sans l'intervention d'Osiris. Elle va, grâce à sa transformation, on va dire dans une bisexualité spirituelle, pouvoir créer cet Horus. Mais aussi parce que c'est la figure de la rédemption. On voit beaucoup de... On ne va pas parler de Jésus, mais on pourrait...
Bah oui, il y a beaucoup de parentés qui ont été
beaucoup de parentés
faits,
et beaucoup d'autres dieux qui sont tués, qui sont sacrifiés pour que naisse une nouvelle ère.
On va y revenir d'ailleurs, voilà. Sur le
Donc, elle est la rédemptrice. On dit toujours que ce sont des figures masculines. Et en réalité, la figure de la rédemption en Égypte, c'est elle. Osiris n'est pas le rédempteur, comme on le lit souvent, puisqu'il n'est plus qu'un héros passif, il est mort.
Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour. Oui, non seulement rédemptrice, mais ce qui m'a beaucoup aussi intéressée dans ce que vous écrivez, et que je ne savais vraiment pas, c'est sa fonction par rapport au langage. C'est-à-dire qu'elle est à la fois rédemptrice et créatrice. Et c'est vraiment, effectivement, vous avez raison, elle lui fait un phallus et elle se fait féconder par lui d'une manière qui est finalement presque une auto-fécondation. Et c'est pareil pour le langage, c'est-à-dire qu'elle est aussi celle qui préside à la naissance. Elle connaît le nom suprême du dieu. Et elle préside à la naissance du langage et donc de la création dans le sens humain du terme.
Oui, elle a cette faculté qui est aussi, je crois, la seule des Égyptiennes à avoir cette faculté. C'est-à-dire qu'elle va par un subterfuge, c'est la grande magicienne Isis. Elle est thaumaturge, elle guérit et elle est aussi une magicienne. Et par un subterfuge extraordinaire, elle va voler le nom suprême du dieu Ré, ce fameux démiurge que j'ai évoqué. Et à partir du moment où elle a ce nom sacré, on parle des 99 noms d'Allah plus le nom caché, on sait bien que le nom caché de Dieu, elle va réussir à l'obtenir grâce à sa magie auprès de ce dieu Atum qui est vieillissant et qui ne veut pas lâcher ce nom. Mais elle va réussir à lui extorquer et être aussi puissante que lui. Et elle a effectivement la puissance du verbe.
Il aura fallu combien de temps pour que ce mythe s'élabore dans tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a 5000 ans, lorsqu'il apparaît, il est fragmentaire et l'histoire a dû s'enrichir tout au long des diverses civilisations, des diverses dynasties qui se sont succédées en Égypte.
Alors on n'a que des fragments. L'histoire que je vous ai racontée dans le détail, si on peut dire, elle nous vient surtout de Plutarque.
Oui, donc c'est très tardif.
C'est très tardif.
Ce sont les Grecs déjà.
Voilà, c'est grec. En réalité, on a tout de même des fragments de ce mythe, donc dès l'époque des pyramides, mais ce sont que des fragments. On a l'essentiel du mythe, mais on n'a pas tous les développements qu'on lit dans Plutarque. Mais ça commence très très tôt, d'abord parce qu'effectivement la documentation est lacunaire, mais aussi parce que pour les Égyptiens, évoquer ce terrible crime qui a été celui d'Osiris par Seth était quelque chose dont on ne pouvait pas parler de cette manière frontale. C'était prophylactique, on ne pouvait pas évoquer cet horrible crime.
Et alors concrètement, quel était le culte qu'on rendait ? C'est-à-dire qu'on a des traces archéologiques ou des textes qui nous permettent de savoir quel rapport avaient les Égyptiens religieux avec la déesse Isis ?
Alors, il y avait beaucoup de temples à Isis. À l'époque,
quelle fonction elle avait
Alors elle était surtout effectivement la patronne des femmes, la patronne, celle qui protégeait les femmes, les enfants, et aussi les femmes lorsqu'elles accouchaient. Elle était aussi la grande magicienne, la grande thaumaturge, et elle guérissait par exemple des morsures de serpents et de scorpions, qui étaient quand même légion en Égypte, il y en a encore. Par exemple, on répandait de l'eau sur des stèles magiques et on buvait cette eau qui était une eau prophylactique. Voilà pourquoi on voit qu'il y avait beaucoup d'ex-votos qui lui étaient consacrés en tant que thaumaturge. C'est un motif qu'on va retrouver effectivement, on verra plus tard.
Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que sa place a été très importante par rapport à Ré, à Mon. Enfin, on sait qu'il y a des dieux qui ont été extrêmement importants dans l'Égypte. Est-ce que tout au long de ces millénaires, on lui a voué une dévotion très forte ou ça restait ça a eu des époques, elle a décliné. Est-ce qu'elle avait une fonction plus secrète? Est-ce que c'était plus initiatique, réservé à des élites? Je voudrais savoir un petit peu justement quelle était sa place dans la conscience religieuse des Égyptiens au cours de ces millénaires.
Alors effectivement, pendant l'époque pharaonique, elle est très liée à Osiris. Et on voit que...
Elle est un peu dans l'ombre d'Osiris.
Elle est un petit peu dans l'ombre d'Osiris, parce que le grand centre cultuel d'Abydos, où il y avait ce culte à Osiris, elle apparaît, mais elle est un peu, comme dans l'Égypte ancienne, la parèdre.
La parèdre, voilà.
C'est la femme de...
C'est le féminin d'Osiris.
C'est le féminin d'Osiris, mais effectivement, comme vous le disiez, elle va surtout émerger à la basse époque, à l'époque, on va dire, alexandrine, ou à la basse époque égyptienne, où des temples entiers vont lui être consacrés.
Tout à fait.
Et elle va supplanter son royal époux.
Et donc, c'est un peu la rencontre avec la culture grecque qui a fait réémerger le mythe d'Isis et qui lui a donné un second essor.
Oui, tout à fait. Avec le syncrétisme, qui est très réussi d'ailleurs, qui est dû au génie d'Alexandre, qui a conquis l'Égypte, ce syncrétisme que les Ptolémées, donc les généraux d'Alexandre, vont créer à Alexandrie, va faire émerger une Isis qui va prendre tous les pouvoirs des autres déesses égyptiennes et bientôt qui va prendre tous les visages des déesses gréco-romaines.
Lélie Anvar ?
Oui, alors c'est sans doute pour cela que le très beau texte que vous m'avez apporté date du 1er siècle après Jésus-Christ, parce que justement on voit que le mythe s'est bien mis en place et que à ce moment-là, Isis, c'est une sorte d'hymne à la première personne, en fait c'est un hymne à elle-même dans lequel elle pose tout ce qu'elle est, et on voit qu'évidemment là elle est déjà devenue cette immense déesse qui préside finalement à tout ce qui fait que la vie est vie. Et en ce sens, que ce soit dans la crue du Nil ou dans l'enfantement, elle préside vraiment à tout, jusqu'au destin lui-même, comme on va le voir donc dans cet hymne à la première personne. Je suis Isis, la maîtresse de tout le pays. J'ai été instruite par Hermès et j'ai inventé avec lui l'écriture sacrée et la démotique, afin que tout ne soit pas écrit de la même façon. J'ai institué des lois pour les hommes, et les lois que j'ai édictées, personne ne peut les changer. Je suis la fille aînée de Cronos, je suis l'épouse et la sœur du roi Osiris. Je suis celle qui a inventé pour les hommes les fruits de la terre. Je suis la mère du roi Horus. Je suis celle qui réside dans l'astre du chien. Je suis celle qui est appelée déesse chez les femmes. C'est par moi que la ville de Bubastis a été fondée. J'ai séparé la terre du ciel, j'ai montré leur chemin aux astres, j'ai fixé la course du soleil et de la lune, j'ai inventé les activités maritimes, j'ai rendu fort le droit, j'ai édicté que les enfants chérissent leurs parents, j'ai institué un châtiment pour les parents sans amour. J'ai mis fin à l'anthropophagie avec mon frère Osiris, j'ai enseigné aux hommes les initiations, j'ai appris à honorer les statues des dieux, j'ai édifié des sanctuaires pour les dieux. J'ai mis fin au pouvoir des tyrans. J'ai ordonné que les hommes chérissent les femmes. J'ai rendu le droit plus fort que l'or et que l'argent. J'ai édicté que le vrai soit tenu pour bon. J'ai inventé les contrats de mariage. J'ai institué les langues pour les Grecs et pour les barbares. Personne n'est honoré sans mon consentement. Je suis la maîtresse de la guerre, je suis la maîtresse de la foudre. J'apaise et je fais se gonfler la mer. Je suis dans les rayons du soleil, j'accompagne la course du soleil. Ce que je juge bon, cela s'accomplit. Tout m'obéit. Je délivre ceux qui sont enchaînés. Je suis la maîtresse de la navigation. Je rends la mer non navigable lorsque cela me semble bon. J'ai construit les remparts des villes. J'ai fait émerger les îles de l'abîme. Je suis la maîtresse des pluies. Je triomphe du destin. Le destin m'obéit. Salut à toi, Égypte, qui m'a nourri.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Florence Quentin qui nous parle de d'Isis, l'Éternel, à l'occasion de la sortie de son livre Isis, l'Éternel chez Albin Michel. Florence Quentin, vous avez choisi comme premier morceau de musique cet extrait de La Flûte Enchantée de Mozart. J'imagine que ça a un lien avec Isis.
Ah oui, alors tout à fait, Mozart était un grand égyptomane. Hein. C'est l'époque où l'égyptomanie fait retour dans l'Occident. De manière très forte.
On en parlera tout à l'heure.
Et cet opéra est complètement centré autour du couple Isis et Osiris, puisque le héros Tamino avec son amoureuse Pamina vont être initiés dans le temple d'Isis sous les auspices du grand prêtre Zarastro. Et on invoque dans ce très beau chœur Isis et Osiris qui sont effectivement ce couple emblématique qui va initier ce couple qui est une sorte d'allitération Tamino-Pamina, Isis-Osiris. On voit que ce couple humain est le reflet, effectivement, le reflet de ce couple divin initiatique.
Alors justement, revenons à ce caractère initiatique d'Isis. Ça a été, on le sait, un des principaux cultes à mystère dans le monde romain. Donc dites-nous un petit peu ce succès phénoménal qu'a connu le culte d'Isis dans le monde gréco-romain pendant de nombreux siècles. Quelle était sa fonction et pourquoi est-ce qu'elle avait autant de succès?
Alors, elle a eu beaucoup de succès parce qu'elle a... Il y a eu une coexistence d'images. Tout d'abord, elle a résumé en elle toutes les autres déesses, non seulement égyptiennes, comme je vous le disais, mais gréco-romaines. On l'appelle la Myrionime, celle aux 10 000 noms. Apulée dit qu'elle est à la fois la déesse des Grecs, des Romains, des Thraces, etc. Et aussi parce qu'elle va présider à un phénomène tout à fait exceptionnel qui est le phénomène des cultes à mystère qui vient... Alors là, pour une fois, je serai moins égyptomane que d'habitude. Les cultes à mystère égyptiens ont été certainement influencés par les cultes grecs de Déméter à Eleusis. Mais on voit qu'ils ont été mis en place par les Grecs d'Alexandrie. Et c'est Isis qu'on a choisi, bien sûr, pour initier ces hommes et ces femmes, pour les amener, comme le dit Apulée, au seuil de Proserpine, c'est-à-dire pour faire l'expérience de la transformation, c'est-à-dire de la métanoïa, du retournement de l'être à travers l'initiation, à travers les éléments, mais aussi par la confrontation, puisqu'Apulée nous dit « j'ai approché le seuil de Proserpine », c'est-à-dire le seuil des enfers, certainement approché, vivre une mort symbolique et peut-être une mort, presque une mort physique, pour connaître ce que serait ce moment ultime de la vie et accéder à l'immortalité, puisque les religions classiques ne proposaient pas ça à leurs adeptes.
Donc finalement, ce mythe d'Isis perpétue le couple Isis-Osiris à travers la mort et la renaissance. Sauf que là, c'est vécu de manière spirituelle et symbolique. Et ce qui montre bien que ce mythe a quelque chose de tout à fait fondamental, parce qu'on va le retrouver dans le christianisme à travers la mort et la résurrection du Christ. Mmh. Cette idée qu'il faut mourir à soi-même pour renaître dans une dimension supérieure de l'être.
Oui, tout à fait. Et déjà dans l'Antiquité, puisque, comme je vous le disais, les gréco-romains ne proposaient pas aux adeptes ces religions, ne parlaient pas d'immortalité, massivement, les Romains, par exemple, se sont tournés vers ces cultes à mystère, que ce soit Mithra, que ce soit Isis, Cybèle, puisqu'on leur donnait une possibilité de vivre cette mort et cette résurrection durant leur vie.
Comment ça se passait concrètement? Est-ce qu'on sait un peu, est-ce qu'on a des récits d'initiés de l'époque, notamment romaine, qui nous racontent un petit peu comment se passe l'initiation? Ça dure plusieurs jours, j'imagine qu'on va dans des lieux obscurs pour renaître à la lumière. Comment ça se passait?
Alors, bien sûr, le principe de l'initiation, c'est de ne rien dire. On a l'engagement, le serment de ne rien dire. Mais on a quelques récits bavards, allusifs, notamment celui d'Apulée, qui est un grand sectateur d'Isis. C'est le fils de la déesse, Apulée. Dans les Métamorphoses, dans l'Âne d'Or, qui est un récit que j'invite chacun à lire, qui est quelque chose de profondément transformateur aussi à lire. Et où Apulée raconte qu'il était un jeune et léger jeune homme et qu'il avait blessé la déesse, qu'il transforme en âne. Donc l'âne, c'est à la fois l'animal de la sagesse, mais aussi elle le fait régresser à son animalité. Et là, grâce à une démarche qu'il va faire envers la déesse, il va vivre à travers cette initiation sa mort et sa renaissance. Et il nous dit effectivement qu'il y avait un jeûne assez long, qu'on était isolé, qu'on jeûnait, et qu'ensuite on était amené, on mettait une tunique blanche, on était un futur myste, un impétrant, et qu'on traversait les éléments, des épreuves à travers les éléments dont on ne sait rien, ces épreuves, mais que si on arrivait à traverser ces épreuves, c'est-à-dire à mourir à soi-même, on arrivait à ce fameux seuil de Proserpine qui devait, par une mise en scène, je pense, assez psychologiquement effrayante, dramatique, confronter l'âme et l'être à sa propre mort. Ça devait être quelque chose d'assez terrifiant. Est-ce que tout le monde passait le cap? Ce n'est pas sûr. Mais Apulée le passe et il, comme tous ceux qui l'ont passé, il ressort comme un nouvel enfant. Il est renatus, il est rené et il ressort comme un être nouveau, renaissant, comme un nouveau soleil, exactement comme dans le mythe d'Isis et d'Osiris. Et il sort, il est couronné, etc. Il y a des chants et des processions.
On sait qu'un certain nombre de philosophes ou de poètes grecs et romains, comme Platon, Cicéron, ont été initiés au culte à mystère. Est-ce qu'on sait en particulier si certains d'entre eux, dans les gens célèbres, qui sont restés célèbres, ont été initiés au culte d'Isis?
Alors, à part Apulée, je pense que les Grecs, comme Platon, ont plutôt été initiés au culte d'Éleusis, de Déméter.
Et est-ce que ça s'est perpétué? C'est-à-dire, c'est un mystère, donc forcément on ne le saura pas, mais ça s'est perdu à quel moment? Est-ce qu'on le sait? Ou est-ce que ça continue? Enfin, est-ce qu'il y a encore des initiations qui se font sans que nous le sachions vraiment précisément? Ou alors ça s'est perdu, mais à quel moment?
Alors je pense que dès la christianisation de l'Empire romain, ça s'est complètement perdu, et ça a même été pourchassé violemment.
On a rasé les temples d'Isis.
Voilà, ouais. On a rasé. Et même, il y aurait beaucoup à dire aussi sur on va dire, l'accueil que les empereurs romains ont fait à Isis. Certains étaient très pro-Isis, d'autres anti-Isis. Et il y a eu, même sous l'Empire romain, des moments où les temples d'Isis à Rome et dans l'Empire romain ont été détruits.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est une... Pourquoi ils ont été détruits? Je pense que vous en parlez beaucoup. On a quand même l'impression que c'est... On pourrait presque interpréter ça, pardonnez-moi Frédéric, comme un rejet du féminin.
Mais pourquoi? Je suis bien d'accord.
non, mais parce que voilà, je vous ai dit, est-ce qu'on peut avoir une lecture comme ça? Parce qu'on a quand même l'impression, quand vous dites qu'elle a été... Pourquoi un tel culte, qui n'a quand même rien de dangereux, devrait être rejeté? Si ce n'est qu'elle représente quand même la puissance du féminin.
Alors, si je m'en tiens à l'interprétation... égyptologique, je dirais que les empereurs romains, pour des raisons stratégiques, politiques, avaient intérêt à se mettre à dos ou pas, ou les Isiaques, hein, qui étaient de plus en plus nombreux, et aussi pour certains d'entre eux, Isis représentait l'Orient aimé ou l'Orient honni. On pourrait aussi développer l'histoire d'Antoine et Cléopâtre, puisque Cléopâtre était considéré par certains empereurs romains comme une catin, l'Orient dans toute sa débauche. Donc Isis, du même coup, était considéré comme un culte de dépravés, enfin, avec une idéologie orientale, hein, ce qui veut tout dire pour les Romains. Mais en réalité, c'est une réalité. Mais sur le plan symbolique, je suis d'accord avec vous. Je vais dans votre sens, Lélie. Je pense effectivement qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la peur, puisque cette déesse était très puissante. Elle avait le pouvoir, la puissance, je ne dirais pas le pouvoir qu'on peut donner aux hommes, mais elle a la puissance, celle qui permet de rendre divin ou royal un homme, c'est-à-dire de faire accéder au trône un homme. Et je crois que les Romains, qui étaient des êtres très pragmatiques, et qui n'étaient pas très féministes, avaient très très peur de cette déesse et de sa puissance.
Et puis les chrétiens aussi, comme on l'évoquait, elles représentaient finalement, d'une certaine manière, l'héritage de tout le culte de la grande déesse antique. Donc voilà, c'est ce que dit Lélie, elles représentaient l'éternel féminin dans le divin. Et puis on voit se développer avec le culte juif et chrétien une vision plutôt héritée des sociétés patriarcales, hein, dans lequel on masculinise le divin. Dieu devient plutôt une figure masculine et paternelle. Donc il y avait une concurrence avec Isis très forte, et en même temps, c'est ça qui est très intéressant que vous montrez dans votre livre, les chrétiens vont quand même récupérer le culte d'Isis, qui était un mythe très puissant et un culte très répandu, à travers plus tard la figure de la Vierge Marie.
Oui, il est évident que ce soit en Gaule avec les déesses mères gauloises, enfin celtiques, et que ce soit en Orient ou en Égypte, il fallait, quand on a christianisé tous ces lieux de culte à la Grande Mère, il était plus facile de récupérer, de christianiser ces déesses mères que de les abattre. C'était impossible dans l'inconscient et dans le conscient des adeptes et des fidèles. Ces déesses étaient toutes puissantes. Il n'était pas question de les supprimer purement et simplement. Donc on les a christianisées. Et on voit effectivement au Moyen-Âge qu'il y a un glissement total, par exemple, entre cette figure d'Isis Lactance qui est en train d'allaiter aux Russes et ces fameuses vierges noires du XIIe siècle, qui sont dans des positions tout à fait de frontalité, de verticalité, de hiératisme, exactement similaires à ces Isis Lactance de la basse époque. On voit qu'il y a dans la figuration déjà plastique, on voit qu'il y a quelque chose de complètement similaire. Et dans la symbolique, ces vierges noires n'ont rien de Madone de la Renaissance. Hein. Elles ne sont pas de belles jeunes filles comme ça, prépubères, si je puis dire, ou tout juste pubères. Ce sont des femmes, des idoles païennes. Elles ont des visages androgynes, de grandes mains. Elles sont noires, ou elles vieillissent avec le temps. Et ce sont ces idoles, c'est la grande mère alchimique. Hein. On voit qu'on est dans l'ordre de quelque chose de profondément transformateur.
Oui, et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi les vierges noires sont noires? C'est-à-dire, à quoi c'est lié? Et du coup, en lisant votre livre, je me suis dit, il y a peut-être ce lien avec l'Égypte, puisque la peau, évidemment, des Égyptiens est plus de couleur plus mate, en fait. Et c'est peut-être pour ça, je vous pose la question innocemment, parce que vraiment, je me suis souvent posé la question, pourquoi ces vierges noires, partout dans le monde, ont une peau aussi foncée?
Alors, il y aurait deux traditions. Une tradition de christianisation d'idoles plutôt celtiques qui aurait été plutôt taillée dans du noyer, qui est un bois qui vieillit. Et une tradition de statues qui auraient été ramenées d'Orient, qui auraient été des Isis et qui auraient été christianisées. Alors là, elles étaient clairement foncées, si je puis dire.
Et puis vous citez dans votre livre aussi des textes comme ce très bel hymne agathiste, hein, qui est un texte grec du 7e siècle, qui s'adresse à Marie, qui la présente comme « Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant, réjouis-toi, mystère de la sagesse divine ». Donc on voit qu'effectivement Marie récupère les attributs de la sagesse, la figure féminine de la sagesse, bien représentée par Isis.
Oui, on voit que les arétologies, ces hymnes tardifs à Isis, on voit que les hymnes à la Vierge sont des démarques quasiment mot pour mot de ces arétologies. Et on pourrait très bien lire des arétologies à Isis dans une église, personne ne s'en offusquerait. On est exactement dans les mêmes attributuels à Stella Maris, tu es la rose mystique, tu es le vase, tu es la coupe, tu es celle qui maîtrise les éléments, qui sur la mer déchaînée de la vie, tu conduis les pauvres navigateurs que nous sommes. Que ce soit Isis ou la Vierge Marie, on retrouve tous ses attributs. I married Isis on the 5th day of May.
like to not hold on to her very long. So I cut off my hair and I rode straight away for the wild unknown country where I could not go wrong. I came to a high place of darkness and light. The fighting line ran through the center of town. I hitched up my pony to a post on the right. Went into a laundry, I washed my clothes down. A man in the corner approached me for a match. I knew right away he was not ordinary.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie de Florence Quentin. Nous continuons de parler des métamorphoses d'Isis à l'occasion de la sortie du livre Isis l'Éternel chez Albin Michel. Alors nous avons déjà vu un petit peu le rôle d'Isis dans l'Antiquité et ce mythe d'Isis qui va un petit peu disparaître effectivement avec la christianisation de l'Europe va renaître en Occident à partir du XVIIe siècle. On voit réapparaître dans les courants un peu ésotériques, un peu théosophiques, etc., dans le courant alchimique, le mythe d'Isis. Et puis, il va prendre un essor avec les romantiques au XIXe siècle. Ça, c'est vraiment un aspect tout à fait passionnant de votre livre. C'est de montrer comment le mythe d'Isis va renaître. Hein, il est presque mort et renaissance à nouveau. Renaître de manière très, très forte dans la modernité jusqu'à la contre-culture américaine avec Bob Dylan. C'est pour ça que vous avez choisi, j'imagine, ce morceau de Bob Dylan, Isis.
C'est une très belle chanson dont Dylan s'est peu expliqué. Ça, c'est une chanson sur le mariage où effectivement il évoque Isis, sa compagne. Il dit que il dit Isis Mystical Child, c'est l'enfant mystique. Donc c'est très surprenant dans la bouche de Dylan, mais c'est vrai que dans la contre-culture des années 70, ça va être repris par l'afrocentrisme, par le féminisme et par des gens comme Dylan, justement cette figure d'Isis.
Et alors un petit peu avant, si on revient plutôt au début de la modernité, quels sont les premiers courants qui relancent le mythe d'Isis ? C'est plutôt des courants, on va dire, un peu ésotériques ou on voit déjà chez les premiers littéraires, chez des écrivains apparaître ce mythe ?
Alors, si on repart au XIXe siècle, on voit effectivement que le mythe d'Isis, qui est vraiment inaltérable, inoxydable, revient faire retour hein, chez les romantiques, notamment bon, chez les romantiques allemands, comme chez Novalis, dans les disciples à Saïs, et puis chez les Français. On la retrouve chez Villiers-l'Isle-Adam, on la retrouve chez Michelet. Et de manière très contrastée, chez Hugo, qui en fait une louve, une larve, une Lilith Isis, il invente un nouveau nom pour Isis, et chez Nerval, pour qui elle est le radieux visage qu'il cherchera toute sa vie, celui de son éternel féminin.
Oui, alors justement, Nerval, qui évoque cette Isis dans Les Filles du Feu, dans un texte assez étonnant d'ailleurs, parce qu'en fait il raconte les circonstances, il est à Pompéi et puis il s'écarte un peu, il y a toute une sorte de carnaval comme ça à Pompéi, et puis il s'éloigne et il se met devant un temple d'Isis alors que le soleil est en train de se coucher, comme il dit, s'abaisser vers Capré, etc. Et là il est saisi d'une émotion très forte. Mais ce qui est intéressant dans le développement qu'il en donne, parce qu'évidemment je ne vais pas pouvoir lire l'ensemble du texte, c'est très difficile à couper ce texte d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment une sorte de continuité de musique de Nerval très typique. En tout cas, cette méditation l'amène tout de suite quand même à unifier le thème d'Isis avec le thème de la Vierge, en s'excusant presque, et ça c'est évidemment le signe des temps. Dans ce 19e siècle, Nerval n'ose pas encore trop faire l'assimilation et il s'excuse d'avance auprès des théologiens de faire ce rapprochement osé entre Isis et la Vierge et aussi Horus, donc le fils d'Isis et du Christ. Isis n'a pas seulement ou l'enfant dans les bras ou la croix à la main comme la Vierge. Le même signe zodiacal leur est consacré, la lune est sous leurs pieds, le même nimbe brille autour de leur tête. Pourquoi ces cris d'ivresse et de joie, ces champs du ciel, ces palmes qu'on agite, ces gâteaux sucrés qu'on se partage à de certains jours de l'année. C'est que l'enfant sauveur est né jadis en ce même temps. Pourquoi ces autres jours de pleurs et de chants lugubres, où l'on cherche le corps d'un dieu meurtri et sanglant, où les gémissements retentissent des bords du Nil, aux rives de la Phénicie, des hauteurs du Liban, aux plaines où fut Troie? Pourquoi celui qu'on cherche et qu'on pleure s'appelle-t-il ici Osiris, plus loin Adonis, plus loin Attis? Et pourquoi une autre clameur qui vient du fond de l'Asie cherche-t-elle aussi dans les grottes mystérieuses les restes d'un dieu immolé? Une femme divinisée, mère, épouse ou amante, baigne de ses larmes ce corps saignant et défiguré, victime d'un principe hostile qui triomphe par sa mort, mais qui sera vaincu un jour. La victime céleste est présentée par le marbre ou la cire, avec ses chairs ensanglantées, avec ses plaies vives que les fidèles viennent toucher et baiser pieusement. Mais le troisième jour, tout change. Le corps a disparu, l'immortel s'est révélé. La joie succède aux pleurs, l'espérance renaît sur la terre. C'est la fête renouvelée de la jeunesse et du printemps. Cette mère divine, ce sauveur, qu'une sorte de mirage prophétique avait annoncé ça et là, d'un bout à l'autre du monde, apparurent enfin comme le grand jour qui succède aux vagues clartés de l'aurore.
Pour en revenir un petit peu à ce renouveau du culte d'Isis à travers plutôt la figure romantique, il y a quelque chose que j'ai découvert dans votre livre et que j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi, c'est que les révolutionnaires français s'en sont emparés. Et on voit que certains d'entre eux, notamment Charles Dupuis, vous citez en 1794, affirment que Isis est la déesse de Paris et non la Vierge. Racontez-nous un petit peu cette récupération par... les révolutionnaires et certains penseurs des Lumières d'Isis.
Alors, c'est l'époque, effectivement, comme j'en parlais tout à l'heure, où on est en pleine égyptomanie. On n'a pas encore retrouvé la clé des hiéroglyphes, mais on est dans l'interprétation de l'Égypte. On est dans ce que Baltrusaitis appelle les perspectives dépravées. On est dans un fantasme sur l'Égypte. Et ce Dupuis, qui est... Va faire de l'étymologie des Parisiens, dont on pense que c'était une tribu celte, une sorte de, comment dire, d'étymologie par Isis, c'est-à-dire le bateau d'Isis, et puisqu'on sait que l'emblème de la ville de Paris est un bateau. Et il en fait la barque d'Isis, sur laquelle elle vogue à travers les mers, hein, la salvatrice sur les mers, et il n'hésite pas à dire que l'étymologie de Paris vient de ce culte d'Isis, dont on sait de manière sûre et archéologique, il y avait des temples d'Isis, notamment un sur la montagne Sainte-Geneviève. Donc on sait qu'il y avait un culte de la part des nôtres de Lutèce, il y avait un culte à Isis. Mais faire de l'étymologie de Paris le bateau d'Isis...
Bien sûr, mais ça montre bien effectivement l'engouement à nouveau de l'intérêt pour l'Égypte et pour la figure d'Isis, qu'on retrouve aussi, alors vous en parlez aussi, dans tous les, un petit peu les traditions, les sociétés secrètes, et notamment les francs-maçons. Il va y avoir toute une maçonnerie égyptienne, un peu tardive d'ailleurs, ce n'est pas la toute première, qui va beaucoup insister sur l'Égypte et l'initiation, en essayant peut-être de retrouver les cultes à mystère.
Alors, la maçonnerie traditionnelle s'inscrit dans la tradition des compagnons du Moyen-Âge, mais au XVIIIe siècle, avec ce grand mouvement de l'égyptomanie, quelqu'un comme Cagliostro va créer une maçonnerie complètement égyptienne, avec des grades comme sublime pontife d'Isis, un grand copte, et Cagliostro va lancer ces mouvements de maçonnerie égyptienne qui vont naître en plein XVIIIe siècle. On voit qu'il y a effectivement une attraction pour l'Égypte et que ces maçons se sentent, alors historiquement ou symboliquement, les enfants d'Apulée.
Certainement symboliquement,
je pense. Certainement symboliquement.
Mais en même temps, c'est un mythe. Est-ce qu'il va prendre des visages nouveaux, c'est-à-dire par rapport, par exemple, la manière, l'archétype, on va dire, comme on disait tout à l'heure, qui était celui d'Isis dans l'Empire gréco-romain. Est-ce que l'archétype d'Isis dans les sociétés, chez les romantiques ou dans les sociétés ésotériques du 19e siècle, s'est modifié? Est-ce qu'on va vers un nouvel usage d'Isis, une nouvelle compréhension d'Isis?
Alors, si on parle de mouvements ésotériques de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, société théosophique, Golden Dawn avec Aleister Crowley ou Rudolf Steiner, l'anthroposophie, tous ces mouvements ésotériques du début du 20e siècle se sont emparés, une fois de plus, encore un des avatars d'Isis, de cette figure d'Isis, en faisant plutôt une incarnation soit de la sagesse, soit du grand féminin, de la grande sagesse, une sorte de Sophia. Hein.
Voilà, on
c'est
retrouve
la sagesse
grecque.
De Dieu, on retrouve la Sophia grecque. La sagesse de Dieu, cette espèce de figure de l'héros divin, où Blavatsky, Elena Blavatsky, de la société théosophique, en fait plutôt une figure, alors là, je la trouve plutôt dégradée, c'est-à-dire une figure du féminin réceptif, la nature, vous savez, qu'on féconde. Alors, d'héroïne du mythe pharaonique, elle devient une espèce de figure fécondante, fécondée, moins fécondante que fécondée, du féminin.
Elle a écrit un livre, d'ailleurs, Isis dévoilée, je crois.
Un de ses premiers livres, enfin, le plus important, c'est Isis dévoilée. Et elle, à mon avis, elle ne dévoile pas grand-chose. Mais...
Et la psychanalyse aussi, c'est évidemment emparée du mythe très tôt. Je crois même qu'il y a des références à ça dans la Gradiva, enfin, dans le commentaire que Freud fait de la Gradiva. Mais plus généralement, on ne peut manquer même de faire de la psychanalyse de la petite semaine quand on lit le mythe, évidemment. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont la psychanalyse a abordé ce mythe?
Alors, il l'a abordé plus ou moins avec bonheur, parce que bon, Freud était un grand, non pas spectateur d'Isis, parce que je pense qu'avec le féminin, il avait beaucoup à faire, ce brave Freud. Mais je pense qu'il était surtout un égyptomane extraordinaire, puisqu'il avait dans son cabinet une série de doucheptis et statuettes funéraires qu'on trouve dans les tombes. Il en faisait collection et il adorait l'Égypte. Parce qu'il voulait être archéologue au départ et il est devenu un archéologue de l'âme, de l'inconscient, on va dire plutôt. Mais je pense qu'avec le féminin, il avait beaucoup à s'expliquer. Et il a notamment fait une erreur d'interprétation sur le rêve, le fameux rêve de Léonard de Vinci, dans la traduction où il dit que c'est un épervier, quelque chose comme ça, alors qu'en réalité, en italien, il s'agit d'un Milan. Et Freud développe tout ce problème de complexe, effectivement, d'Oedipe, etc., à travers l'interprétation de cet oiseau aussi, que Vinci aurait vu en rêve. Et là, il y aurait beaucoup à dire. Vinci ne voit pas un épervier mâle, il voit un Milan femelle. Que voit-il? Il voit une des théophanies, c'est une théophanie de la déesse Isis. Donc je crois déjà que, ça c'est mon interprétation personnelle, ça ne va peut-être pas plaire aux freudiens, mais je pense que Freud avec le féminin, il avait vraiment à s'expliquer là-dessus, et jusqu'au fait qu'il ait interprété ou traduit ce mot par épervier ou faucon au lieu de Milan.
Justement, cette puissance du féminin dont on a parlé en relation avec Isis, vous la mettez aussi en relation à la fin de votre livre, et c'est là que vraiment vous rejoignez nos préoccupations les plus actuelles, à la question de la nature, mère, de Gaïa en quelque sorte, et de la manière dont peut-être ce mythe, réinterprété par tout un chacun, peut nous amener à regarder les choses de manière plus écologique, mais dans une écologie évidemment pacifiée, parce qu'elle aura intégré cette dimension de la mère nourricière et terrestre.
Oui, il me semble que la force du mythe d'Isis, ou quel que soit le mythe, c'est son actualité, hein, son universalité, sa pérennité. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui fait sens, en tout cas pour moi et je pense pour nos contemporains, non seulement la dimension dont je parle du care, c'est-à-dire de prendre soin d'eux, hein, cette dimension à la fois politique, sociale, qu'elle incarne parfaitement, et puis... puisqu'elle a fait partie des spéculations des philosophes de la nature philosophie allemande, c'est la nature voilée. On ne peut pas lever impunément le voile d'Isis, c'est-à-dire violer la nature sans en avoir les conséquences. Et ce mythe, cette interprétation, nous dit bien qu'aujourd'hui, il faut faire attention à la nature, qu'il faut réparer le corps malade de la nature et qu'il faut la respecter au risque d'être foudroyés comme ses disciples à Saïs qui, en soulevant impunément le voile d'Isis, peuvent tomber foudroyés à ses pieds. Et ce mythe nous dit, on ne peut, il faut respecter la nature, il faut soigner ce grand corps malade, il faut respecter cette déesse mère.
Cette émission sur Isis se termine avec un petit agenda culturel d'Elian Var.
Oui, alors puisque nous parlons d'Égypte et d'égyptomanie, je voulais signaler au musée Jacques-Marandré à Paris une très belle exposition qui s'intitule « Le crépuscule des pharaons, chef-d'œuvre des dernières dynasties égyptiennes ». Exposition qui a lieu jusqu'au 23 juillet, donc au musée Jacques-Marandré. Je crois que vous l'avez vu, Florence Quentin.
Oui, c'est une très belle exposition qui est centrée sur une époque qu'on connaît moins, qui est justement l'époque, la basse époque, les époques tardives de l'Égypte et l'époque ptolémaïque, où on voit des pièces tout à fait remarquables qui viennent notamment de New York, qu'on voit très rarement en France. Et c'est une exposition qui a une scénographie très belle et on voit surtout des pièces remarquables et peu connues.
Vous vouliez également signaler un ouvrage, Le voile d'Isis de Pierre Hadot, qui vous paraît important.
Oui, Pierre Hadot, qui est décédé l'année dernière, qui est un de nos grands philosophes, et qui a très bien montré dans cet ouvrage remarquable comment les spéculations, des philosophes autour de ce thème de la nature voilée. C'est une très longue histoire qu'il développe remarquablement.
Et en montrant l'aspect spirituel, c'est ça qui est passionnant.
La dimension spirituelle.
Alors je signale également que vous allez faire plusieurs conférences dans les semaines et les mois qui viennent. Donc on pourra trouver le programme de ces conférences sur votre site www.florence-quentin.fr. Mais nous allons mettre ces conférences et votre site internet sur notre propre site que nos éditeurs connaissent. J'en profite aussi pour signaler la sortie d'un hors-série du Monde des Religions que vous pouvez trouver en kiosque au mois de juin et juillet. Le message du Bouddha, les 7 clés de son enseignement. Donc ce sont des spécialistes qui ont écrit sur des points comme la compassion, l'éthique, la méditation, la mort, la vacuité, etc. Et puis il y a également le témoignage d'une vingtaine de personnalités, écrivains, philosophes, comme Jean-Jacques Hano, Christophe André, Jean-Claude Carrière, André Comte-Sponville, Éric-Emmanuel Schmitt, Fabrice Midal, Marie de Henzel, qui témoignent de ce que le bouddhisme a apporté à leur vie. Donc voilà un hors-série, le message du Bouddha, du monde des religions. Et puis je termine évidemment par cet ouvrage qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, Isis l'Éternel. Florence Quentin, merci beaucoup d'être venue au Racine du Ciel.
Merci, sous les ailes d'Isis.